qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. Je m'entends pas.
Je ne t'entends pas ?
Non, je m'entends pas.
Parce qu'il est mal branché.
Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, avec ce beau soleil aujourd'hui, on a été gâtés, hein, on n'a pas toujours de la pluie, donc c'est formidable. Voilà, ce soir, moi j'ai trouvé toujours des recettes aussi délicieuses et faciles à réaliser, surtout. Avec peu de temps, vous allez voir des nouveautés, on innove un petit peu de temps en temps. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on vous donnera effectivement tout au long de l'émission des astuces, bien évidemment. Et puis, Nathalie interviendra sur des ingrédients ou des recettes et nous racontera un peu leurs origines. Voilà, alors voyons ensemble le menu de ce soir. On va réaliser donc des citrons farcis au thon. Ça, vous avez peut-être déjà fait, vous allez voir la recette. Elle est un tantinet transformé avec autre chose, vous allez voir. Vous allez vite découvrir ce dont je parle. Alors pour ça, on aura besoin de 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à café de vinaigre, du persil, du poivre, du sel. On aura besoin de 6 citrons, une boîte de thon en miettes naturelles. Hein, n'allez pas chercher du thon à la tomate. Voilà, au naturel c'est mieux. 2 cornichons, une branche de céleri. Donc ça c'est pour ceux qui aiment, hein, c'est pas obligatoire, mais ça donne un petit peu de goût, ça peut être bien. Et puis on aura besoin d'un œuf, d'une cuillère à soupe de capre et 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de paprika pour donner du goût et puis une petite pincée de poivre de Cayenne pour juste un peu pimenter les choses. Côté matériel, on aura besoin d'une cuillère, d'un couteau, d'un mixeur et d'une passoire et d'un saladier. Ensuite, on va faire un petit salé sucré avec une pintade de cidre au cidre et aux noix. Vous allez voir, c'est assez sympa. On aura besoin de 75 g de beurre, de 18 noix décortiquées, d'un cube bouillon de volaille, d'un verre de liqueur du Calva, c'est mieux. Maintenant, si vous avez du cognac, c'est aussi bien, c'est pas grave. Ça changera juste le goût. Et puis, on aura besoin aussi de 75 g de crème fraîche, du poivre et du sel, d'une belle pintade. Hein, si vous êtes 6 personnes, vaut mieux en avoir pour à manger, d'un verre de cidre évidemment, et puis de 75 g de raisin sec. Pour le matériel, il vous faudra un faitout allant au four, un bol et une cuillère en bois. Évidemment, il vous faudra peut-être d'autres ustensiles, mais que vous aurez tous les jours à la maison. Et puis, on va finir par le muffin à la rhubarbe, parce que on est en pleine dans la saison de la rhubarbe. La récolte a commencé à se faire. Enfin, pour ma part, ça a commencé dans le jardin. Donc, pour cela, vous aurez besoin de 300 g de farine, d'une pincée de sel, 100 g de sucre, 12 centilitres d'huile, 100 g de cassonade, 3 œufs, 25 centilitres de lait, une cuillère à café d'essence d'amande et 100 g de rhubarbe. Alors, ou de fraises, si vous n'avez pas de rhubarbe, vous pouvez faire ça avec des fraises, sachant qu'on est au début de la saison de la fraise. Donc voilà, moi j'en ai pris sur le marché, j'étais un petit peu déçu de la fraise. C'était la fraise française, donc voilà. Donc du coup, je vous ai mis une alternative, mais sachant que la rhubarbe, c'est vachement meilleur. Voilà, ça dépend des goûts. Pour le matériel, on aura besoin de 12 moules à muffins ou de cassolettes papier. Moi, j'aime bien dans les cassolettes parce qu'au moins, on peut le prendre pour le pique-nique. Ça ne s'écrase pas, enfin, sauf si vous le collez dans une poche. Une cuillère en bois et puis 2 saladiers. Voilà. Alors, avant de commencer la préparation de l'entrée, on va. Moi, je voulais savoir un petit peu que Nathalie nous parle du citron.
Le citron, l'origine du citron jaune est longtemps restée inconnue, notamment en raison de son polymorphisme et de sa diversité intervariétale. Les chercheurs situaient son ancêtre sauvage dans la région d'Assam, la région indo-birmane ou en Chine. Des études phylogénétiques en 2016 montrent qu'il est né en Méditerranée et est issu d'un hybride entre la bigarade ou orange amère et le cédrat vers le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, bien que le citron ait longtemps été confondu avec le cédrat, des récits grecs remontant au 3e siècle indiquent que le citron a fait son apparition en grec antique à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ. Le botaniste Théophaste lui attribue des qualités médicinales, notamment pour lutter contre les poisons. Il est utile dans le cas d'empoisonnement par un liquide vénéneux, car pris dans du vin, il agit violemment dans le ventre et fait évacuer le poison. Il sert également à éloigner les parasites des vêtements et aussi à parfumer. Et selon l'auteur grec Athénée de Nocratis, le citron commence à être consommé en aliment, mais à partir du 2e siècle, servant notamment d'assaisonnement. Le citronnier, lui, servait à l'origine de plantes ornementales dans les jardins de plaisance au Moyen-Âge, notamment les jardins islamiques à partir du 10e siècle. Le citron est progressivement introduit dans l'alimentation médiévale où il est utilisé comme fond acide destiné essentiellement aux aménagements de légumes crus ou d'assaisonnement de toute nourriture au même titre que le verjus, le vinaigre ou le jus d'orange. Alors, il est cependant probable qu'il ait servi de technique de conservation de la viande par l'acide depuis l'Antiquité. Et durant le Moyen-Âge, le citron sert pour les marins à lutter contre le scorbut en raison de sa grande teneur en vitamine C. Il est présent sur les bateaux des conquistadors espagnols lors de la conquête de l'Amérique et il est implanté dans les régions les plus ensoleillées comme la Californie ou la Floride.
Merci Nat. Voilà, donc pour ces informations sur le citron, il fallait savoir que c'était un antipoison quand même. Hein.
Oui, c'est bon à savoir. Moi, je sais pas si c'est toujours le cas.
Mais... Oh, certainement. Je savais pour le lait, mais pas le citron. Mmh. Voilà, bah, écoute, tu nous as encore appris plein de choses. Alors, donc on va voir notre recette de citron au farci. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vous en rappelle les ingrédients. On a 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à café de vinaigre, du sel, du poivre, 6 citrons, une boîte de thon, miettes au naturel, 2 cornichons, 2 branches, 1 branche de céleri, 1 œuf, 1 cuillère à soupe de câpre, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à café de paprika doux et une pincée de poivre de cayenne. Pour les ustensiles, 1 cuillère, 1 couteau, 1 mixeur et 1 passoire et 1 saladier. Voilà, il faudra compter qu'à peu près 30 minutes de préparation. Et puis c'est tout, puisqu'il n'y a pas besoin de cuisson. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Alors 30 minutes, je suis large. Mais c'est fait exprès, hein, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins lents. Voilà, moi, je mets moins de temps, mais je mets 30 minutes. Voilà, alors, on va déjà commencer par couper la partie supérieure des citrons, du côté pointu. Et puis, pour suivre, on va couper la base du citron, sans entamer, bien évidemment, la chair, pour qu'on ait en soi une stabilité. Et ensuite on va retirer la pulpe du citron et presser cette pulpe de façon à en tirer 2 cuillères à soupe de jus. Voilà, donc vous faites ça à la cuillère ou à la fourchette. L'idée, c'est qu'on ait nos petits citrons vides. Ensuite, on va, par la suite, on va laver le céleri, le persil. On va éplucher l'ail. On va mixer le cornichon, le persil, le céleri, les câpres et l'ail, bien évidemment. Et puis, on va réserver. Ensuite, vous allez égoutter votre thon dans une passoire. Et puis après, vous allez donc préparer la mayonnaise. Donc ça, tout le monde s'est préparé. Enfin, je vous rappelle, hein, donc on met l'œuf, donc le jaune d'œuf, hein, le blanc, vous le récupérez hein, pour faire des meringues. Vous mettez la moutarde, vous mettez les 10 cuillères, je crois que c'est 10 cuillères à soupe d'huile d'olive dans votre bol. Et puis, vous mettez votre mixeur plongeur dans le bol et vous allez voir, en 2-3 minutes, elle est faite. Vraiment, c'est... moi, j'ai été surprise. C'est mon mari qui m'a fait connaître, parce que moi, j'étais encore avec mon fouet. Et il fait ça merveilleusement bien. Vraiment, c'est super. Avec le mixeur plongeant, c'est... en 2 minutes, elle s'est fait. Voilà. Donc là, une fois que votre maillot, elle est montée ferme, vous allez vérifier l'assaisonnement, hein, évidemment, de cette moutarde. Vous allez y ajouter le poivre de Cayenne pour donner un petit peu de goût, un petit peu de vinaigre, et puis vous allez réserver. Une fois que le thon, il est bien égoutté, d'accord, donc vous allez le mettre dans un saladier, vous allez ajouter le jus de citron au thon, puis la mayonnaise, et vous allez mélanger l'ensemble. Et une fois que c'est bien mélangé, vous allez rajouter par la suite la première préparation, c'est-à-dire le persil, le céleri, l'ail, les cornichons et les câpres que vous avez mixés auparavant. Et puis vous allez mélanger avec une cuillère en bois tranquille, ou alors une marisque, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez, et puis bah, pour obtenir une préparation bien homogène. Une fois que bah, tout est prêt, bah, vous n'avez plus qu'à garnir les citrons de la farce que vous avez préparée, et vous mettez jusqu'à ras-bord, et si vous avez gardé les petits chapeaux, vous rajoutez le petit chapeau dessus, qui ça fait un petit dôme, et puis bah, vous décorez avec un petit peu de persil s'il vous reste un petit peu de zeste de citron vert par exemple, pour donner un peu plus de couleur, ça peut être sympa. Vous servez ça très très frais et puis autour d'une belle salade ou quelques radis en rondelles ou les deux, ça peut être sympa. Voilà, c'est encore une belle salade, une belle entrée que vous pouvez aussi manger lors d'un pique-nique, par exemple, hein, ça peut être sympa. Donc si vous vous souvenez bien, la recette que j'ai en fin de compte plus ou moins transformée, c'est une recette que j'avais déjà donnée avec des rillettes de thon, si vous vous souvenez.
Ouais.
On est dans la même base.
Oui, parce que du coup, j'allais te demander si on n'aime pas la mayonnaise, ce qui est mon cas.
Oui.
On peut mettre du fromage frais à la place.
Voilà,
oui,
tout
à fait.
Ça fait des rillettes de thon, vous l'allégez comme ça. Voilà, et effectivement, ça sera beaucoup moins grave, vous pouvez faire l'alternance. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce qu'en faisant cette recette, j'ai pensé à Nathalie qui n'aime pas la mayo.
Et ouais.
Voilà, donc bah écoutez, pour continuer, bah, je vous propose une pause, et puis... non, pas de pause. Eh ben non, pas de pause. Donc Nathalie, bah, tu vas pouvoir nous parler des cornichons.
Oui, les cornichons. Ça me fait penser à la chanson de... je ne sais plus comment il s'appelle. Un cornichon, c'est un concombre, qui est le Cucumis sativa, généralement de petite taille, utilisé comme condiment. On fait mariner les cornichons dans une saumure, dans du vinaigre ou dans une autre solution, et on les laisse fermenter pendant un certain temps, soit par immersion dans une solution acide, soit par acidification, attention, ou par lactofermentation. Alors historiquement, le concombre était récolté à maturité, à la différence du cornichon. Des variétés ont ensuite été sélectionnées pour produire d'une part des cornichons, d'autre part des concombres. Les sélections effectuées par l'homme ont accentué les caractères propres à chacun pour obtenir des cultivars distincts.
Merci Nat. Alors il me reste une minute, hein, le cornichon maintenant, quand on le fait soi-même, à la récolte, il y a des petits picots.
Oui.
Donc il faut les essuyer.
Brosser
Enfin moi je sais que je les essuie avec un torchon sec, ça prend un petit peu de temps, et après on les plonge dans le vinaigre, et puis on met les condiments dedans. C'est très très simple à faire. Et ça prend pas beaucoup de temps. Ce qui prend plus de temps, c'est vraiment essuyer tous les cornichons, d'enlever tous ces petits picots. Et voilà. Et pour plus de... moi, j'aime bien les petits cornichons parce que...
Croquant. Voilà, croquant.
Voilà, croquant. Mais après, si vous laissez grossir votre cornichon, ça fait des pickles. Et la chose, les Anglais en raffolent.
Ouais, les Américains
voilà.
aussi.
Donc, moi, je cours pas après. J'aime bien le cornichon avec le vinaigre, les petits grains de coriandre, le basilic à l'intérieur qui va bien. Voilà, donc ça peut être une recette que, comme ça.
Et combien de temps dans le vinaigre avant de pouvoir les consommer?
Ah ben un petit moment, hein. je crois que c'est 3-4 mois de mémoire. Moi, à chaque fois, je reprends ma recette, hein, tu sais. Ouais. Comme je ne fais pas tous les ans des cornichons parce que j'en ai d'une année sur l'autre des réserves, donc je garde mes réserves. Et puis bon, après, tu les consommes comme tu veux, hein, à partir du moment où ils sont dans le vinaigre, ça bouge pas, hein, ça bouge pas.
C'est vrai.
Voilà, bah écoutez, il est temps de se faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour la pintade aux raisins et aux noix, un délice.
Parc Babyland Amiland, 34 attractions.
Non, maintenant c'est Parc Winoland.
Parc Winoland ?
Parc Winoland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne.
Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau. Winoland.fr, winoland.fr.
Winoland.fr.
Winoland, la magie de l'amusement.
En famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
J'ai besoin de prendre de l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme fausse, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. D'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Quelle jolie chanson, mon Dieu.
C'est beau, hein.
J'ai pas entendu le jingle, donc
c'est
je me suis dit, ça y est.
Color.
Ah, c'est magnifique. C'est vraiment, il a une douce voix. Merci, Nathalie. Alors maintenant, Nathalie, avant qu'on commence...
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Théo nous fait des
oui, non,
des,
mais juste parce que j'ai dit que j'ai pas eu mon jingle, alors voilà, il veut une note.
Ah, d'accord.
Il est coquin, ce Théo. Vraiment, il est très coquin.
Non, alors, pour ma défense, c'est un problème technique. En fait, j'ai appuyé plusieurs fois parce que du coup, ça ne marchait pas. Et du coup, il est en train de se lancer plein de fois, parce que j'ai appuyé 40 000 fois. Donc, en fait, il se lance avec du décalé. Donc,
d'accord.
Voilà ce que ça donne si je remets le son.
D'accord. Donc, on peut enchaîner quand même. Tu vas nous couper le son.
Ah, mais vas-y, je vais couper le son du jingle. Hein.
Bon, c'est ça le direct. C'est ça qui est génial avec le direct. C'est qu'on peut pas prévoir les urgences. Quand même, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous parles de cette pintade.
Oui, les pintades. Hein. Alors, les pintades, ce sont des oiseaux de l'ordre des Galliformes, originaires d'Afrique. Elles ont un plumage foncé, pointillé de blanc. Elles se nourrissent de graines, ainsi que de vers, de fourmis, d'araignées, enfin tout ce qu'on aime, de tiques. Certaines sont domestiquées et les volailles d'ornement, elles sont surtout appréciées pour leur chair. Et la principale pintade domestique garde de son ancêtre l'instinct de se percher et un caractère farouche. Alors, importée d'Afrique du Nord, antique Numidie, par les Grecs et les Romains qui l'utilisent comme offrande aux dieux et l'élève en basse-cour. Elle est nommée poule d'Inde au Moyen-Âge, puis poule de Pharaon et pintade lorsqu'un navigateur vénitien au service du Portugal en ramena un spécimen d'Afrique de l'Est. Elle est introduite au XVe siècle en France, qui est le premier pays à sélectionner des pintades en vue de les élever. Ce qui en fait en 2010 le premier producteur mondial avec ses régions d'élevage des Pays de la Loire, du Grand Sud-Ouest, de Rhône-Alpes et de la région Centre. L'oiseau est grégaire, terrestre et dodu, de taille moyenne, entre 40 et 72 cm, et à petite tête cornée et à queue courte et pendante. De larges zones de peau nues ornent le cou et la tête. La plupart des espèces portent une crête ou un casque ossifié. La pintade commune, Numida melea gris, possède une crête cornée sur la tête et des barbillons, violets. Elle est élevée pour sa chair, principalement en France, premier donc, on l'a dit, pays producteur de pintade, où elle est considérée comme domestique. Elle est originaire d'Afrique, où elle vit à l'état sauvage sur la majeure partie du continent. Les populations férales retournées à l'état sauvage, ce qui veut dire retourner à l'état sauvage, existe sur l'île d'Haïti, dans les Caraïbes. Ce gallinacé est omnivore. Il se nourrit de verdure, de baies, de graines, d'insectes et autres petits invertébrés, de petits vertébrés aussi, comme les souris ou les grenouilles. Bien qu'il soit capable de voler, il est essentiellement coureur. La pintade pond aux alentours de 12 à 15 œufs. Au bout de 27 à 28 jours d'incubation, l'éclosion a lieu. Les deux parents participent à l'élevage des pintados, la pintade cacab ou criaille, et l'élevage de pintade se nomme la méléagriculture.
Merci. Nat, est-ce que tu t'es déjà retrouvée en vacances à côté d'un élevage de pintades?
Non.
Je te promets, c'est un vrai moment de bonheur. Ça gueule tout le temps.
Ouais, j'imagine.
Non, ça gueule pas, ça cacabe.
Oui, ça cacaille.
Ça cacabe.
Ça cacabe ou ça criaille.
Ça cacabe. Donc, mais ça, je leur sortirai. T'as arrêté de te cacaber. Voilà. Donc, bon, écoute, c'était intéressant quand même. Voilà, mais la pintade, et puis c'est joli. Moi, j'aime bien, c'est un bel oiseau. Mais ça piaille tout le temps. Voilà, ça casse les oreilles. Donc, surtout, quand vous allez en vacances à la ferme, regardez bien
s'il n'y a pas de pintade.
Parce que là, c'est ça et les dindons. C'est aussi pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. Je ne vous imiterai pas le cri, mais...
Ça
glougloute. Oui, ça glougloute. Exactement. Alors, en passant justement à cette pintade qu'on va faire avec du raisin et des noix. Pour cela, donc il vous faudra 75 g de beurre, 18 noix décortiquées, un cube de bouillon de volaille, un verre de liqueur calvados, si vous avez encore, tout à l'heure je le disais, si vous avez du calvados, calva, c'est du calva, c'est bien. Si vous avez un cognac ou un armagnac, ça peut être bien aussi. Hein. Ça juste changera un petit peu le goût. C'est aussi pour faire un petit peu flamber la pintade. Mais voilà, s'il y a des enfants, pas d'inquiétude. De toute manière, étant donné qu'on fait le flamber, il y aura pas de, il y aura juste le goût et oui, l'alcool sera évaporé. Et puis on n'en met qu'un petit verre. Hein. Faut pas non plus mettre toute la bouteille. Je continue, donc il vous faudra 75 g de crème fraîche, du poivre, du sel, une belle pintade bien sûr. Alors coupez en morceaux, moi je préfère. La recette d'origine c'est entière et je l'ai un peu transformée parce que quand elle est entière, moi je la trouve beaucoup plus sèche.
D'accord.
Voilà, donc moi je la préfère faire au faitout, ça marine, ça mijote plutôt qu'au four, la faire griller. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Bon, moi c'est une question de goût et de, parce que la pintade à cuire, c'est long à cuire, mais voilà, c'est une question de goût et de praticité aussi, parce que quand on vient avec la pintade et qu'il faut la découper à table, je veux vous dire qu'en général,
ouais, c'est toujours une galère.
Voilà, donc la pintade donc coupée en morceaux, un verre de cidre, 75 g de raisin sec, pour le matériel un bol, une cuillère en bois et un faitout allant au four et son couvercle. Notez qu'il vous faudra donc à peu près 30 minutes de préparation, mais il y aura une heure de cuisson hein, qui va se faire à plusieurs étapes. Alors déjà pour commencer, on va faire tremper le raisin dans l'eau chaude pour le réhydrater. Donc vous mettez ça dans votre raisin dans un bol et vous versez l'eau chaude. L'eau chaude du robinet, ça suffit. Hein, c'est pas la peine de faire bouillir de l'eau, ça sert strictement à rien.
D'accord.
L'eau chaude du robinet, faut qu'elle soit bien chaude. Et puis vous mettez de côté. Ensuite, dans votre faitout, vous allez faire fondre le beurre. Vous allez y mettre donc la pintade coupée en morceaux, les noix, le cidre et puis un petit peu d'eau pour éviter que ça accroche tout de suite et un peu d'eau que vous aurez délayé le cube.
D'accord.
Donc une fois que vous avez mis les noix, le cidre, vous allez vous remuer un petit peu, il faut que ça roussisse un petit peu, bien évidemment, hein, pour que ça fasse prenne un peu de couleur. Et une fois que ça a un peu roussi, vous allez y mettre donc votre
bouillon en fait.
Le bouillon. Mais avant le bouillon, on va mettre le calva qu'on va faire flamber. Donc vous mettez le calva au moment où vous avez mis les noix, le cidre, le calva, vous mettez une petite allumette et clac, ça va. Et vous recouvrez tout de suite. Comme ça, les flammes, elles vont pas aller sur votre hôte déjà. Et puis, l'alcool va pas brûler en totalité. Donc on va avoir l'essence qui va rester. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez un petit peu revenir aussi votre viande et là, vous mettez votre eau délayée, le cube. Alors, en général, c'est 1 litre pour un cube, quelque chose comme
d'accord.
Ça. Moi, je le fais au pifomètre, c'est-à-dire que je mets un petit peu mon cube et un fond d'eau parce que on a quand même le cidre, on a quand même un petit peu d'alcool et puis la pintade va peut-être un peu rendre de l'eau parfois.
Est-ce qu'il
parfois.
Faut qu'elle soit couverte, la pintade ?
Non, il ne faut pas qu'elle soit couverte. Donc, mais si elle est couverte, pourquoi pas ? De toute manière, après, plus elle va chauffer, plus l'eau va s'évaporer. Sauf que là, on va la faire chauffer à couvert. Donc, elle va garder son eau. Donc,
oui.
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de 1 litre. Gardez, si jamais vous ne mettez pas le 1 litre dans votre cocotte, dans votre faitout, vous le gardez de côté, vous ne le jetez pas, parce que si jamais il manque un peu de jus, vous pourrez le rajouter.
Mm-hmm.
Ça, c'est pas... Ensuite, quand vous avez fait, vous avez mis ça, vous mettez la crème fraîche, hein, et puis le sel et le poivre. Et vous allez laisser cuire... doucement à 30 minutes à découvert. Donc, on laisse mijoter à 30 minutes à couvert.
À feu doux.
À feu très doux. Parce que je vous rappelle qu'il y a la crème fraîche et que la crème fraîche, si
oui.
Elle bout, c'est pas bon. Donc, elle va un petit peu buller, mais ça suffira. Et une fois que les 30 minutes sont passées, vous allez y rajouter les raisins que vous aurez égouttés. Sans l'eau, forcément.
Oui, bien sûr.
D'accord. Et si vous voyez qu'il manque un petit peu d'eau, vous rajoutez, vous mélangez bien évidemment et vous laissez encore cuire une vingtaine de minutes, voire 30 minutes jusqu'à ce que vous passiez à table. Hein. Mm-hmm. Vous pensez à remuer de temps en temps, vous vérifiez bien s'il reste du jus. Normalement, il devrait en rester. S'il n'en reste pas, vous remettez de l'eau de toute manière. Moi, ma grand-mère, elle disait tant qu'il y a de l'eau au robinet, il y aura du jus. Voilà. Donc,
s'il reste du bouillon, c'est avec le bouillon qu'il faut
mettre après. Oui, bien sûr. Donc, une fois que c'est cuit, on va, donc 20 minutes avant la fin, on va enlever. Donc, moi, je fais ça avec une passoire. J'enlève mes morceaux, je les mets dans un plat de service. Et là, je fais réduire ma sauce avec avec tout l'ensemble. Je fais vraiment un petit peu un bouillon qui va s'épaissir parce qu'il y aura le suc de la pintade. Et une fois qu'il est un petit peu épais, eh ben, vous le nappez votre pintade et vous servez de suite.
Alors pour faire réduire, il faut augmenter le feu peut-être.
Alors il faut augmenter, mais pas trop. Parce que encore une fois, il y a la crème fraîche et si vous la faites trop bouillir, ben, elle va se dissoudre, elle va se séparer du gras et du gras, et vous n'aurez que du gras, et ça va faire vraiment très huileux. Je parle en connaissance de cause. Donc, vous mettez votre pintade, vous la mettez maintenant au four, hein, tout simplement, ça, et puis vous réduisez, 5-10 minutes à feu un peu vif. Vous allez voir, ça va vite venir, hein, l'épaisseur, et puis ben, une fois qu'elle est, hein, elle est un peu épaisse, et eh ben vous nappez votre pintade et vous servez. Alors moi on sert ça avec des pommes de terre persillées, pommes de terre sautées et persillées, et des haricots, ou les l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Voilà, ça fait un superbe repas, assez calorique, j'avoue, mais un salé sucré qui est assez délicat et superbement bon. Voilà, donc écoutez. Je vous propose une seconde pause et puis on vous parlera d'autre chose tout à l'heure. À tout de suite.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir. Et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence, ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque. Oh. Mais ça repart et mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo.
haut. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt. C'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout s'éteint des crescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici. On avait vu la recette de la pintade là,
ouais.
Juste avant la pause, et on a utilisé un ingrédient qui est le raisin sec, et pour cette petite note de sucré, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de ce raisin sec.
Ouais, les raisins secs, en fait, ce sont des raisins séchés. Ils peuvent être consommés crus, tels quels, ou être utilisés cuits dans certaines recettes. Les raisins secs sont très doux en raison d'une concentration élevée en sucre. S'ils sont stockés pendant une longue période, le sucre peut toutefois cristalliser et rendre le fruit granuleux, sans affecter sa valeur nutritionnelle. Alors pour faire disparaître cette cristallisation, il suffit de tremper les fruits dans un liquide, alors alcool, jus de fruits ou de l'eau bouillante, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, très chaude. Pendant une courte période, il existe différentes variétés de raisins secs. Il y a le raisin de Corinthe, de Smyrne, c'est la région d'Izmir, c'est en Turquie. Le raisin de Malaga, obtenu avec le cépage muscat d'Alexandrie. La sultanine, le raisin blond ou doré. Et environ 95% des raisins secs actuellement produits dans le monde proviennent du cépage blanc sultanine. Puis viennent de la variété Fiesta avec 3% de la production et le cépage noir, le raisin de Corinthe avec 1,5%. Alors l'absence de pépins est une caractéristique constante de la sultanine qui est aussi fréquente dans le raisin de Corinthe, mais plus rare dans le muscat d'Alexandrie. Utilisé pour produire des raisins de Malaga, il existe plusieurs méthodes de séchage des grains de raisin. Il y a le séchage au soleil direct. Les baies sont disposées sur des claies exposées directement au soleil ou les grappes sont suspendues à des fils ou laissées sur pied. Et après torsion du pédoncule, notamment pour le muscat d'Alexandrie en Espagne, séchage au vent, les grappes sont suspendues dans des hangars de séchage bien aérés, des pressions tourfant, c'est en Chine. Les grains sont plongés pendant 15 à 20 secondes dans de l'eau très chaude, entre 87 et 93 degrés Celsius, puis passés dans des tunnels de déshydratation à 71 degrés Celsius pendant 20 à 24 heures. Alors, lors du séchage, c'est dur, hein, c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse. Les baies subissent un changement de couleur important dû à l'apparition de pigments bruns ayant pour origine l'oxydation des composés phénoliques. Les enzymes impliquées dans cette oxydation sont les polyphénols oxydases, les PPO, situés dans les conditions physiologiques normales dans des compartiments différents de la cellule. Que les polyphénols, eux, sont situés dans les vacuoles. Les techniques de séchage conduisent à des décompartimentations par changement de la perméabilité membranaire et à la rencontre de l'enzyme et des polyphénols. Pour obtenir des raisins secs blonds, les grappes sont plongées dans l'eau chaude puis traitées par fumigation à l'anhydride sulfureux S02. Plus exactement, afin d'inactiver les polyphénols oxydases. C'est très technique.
C'est même très, très scientifique ce que tu nous as sorti. Merci, Nat. On va poursuivre. On va poursuivre avec notre dessert de ce soir, c'est-à-dire les muffins à la rhubarbe. Et là, tu as encore quelque chose à nous dire sur la rhubarbe, qui est un vieux légume, vieux fruit.
Un vieux fruit. Enfin, c'est même pas un fruit d'ailleurs, je pense qu'on va en parler.
Voilà,
alors justement, la rhubarbe, c'est un genre de plante, c'est une plante herbacée vivace de la famille des polygonacées. Il comprend une cinquantaine d'espèces, en particulier la rhubarbe des jardins, dont les pétioles des feuilles ou bâtons de rhubarbe sont consommés, le plus souvent cuits, en tarte, en confiture, en compote ou aussi comme légumes. Plusieurs espèces de rhubarbe étaient connues dans l'Antiquité. Rhum officinal était connu comme plante médicinale en Chine depuis très longtemps et R. ribes en grec antique. Rhum officinal fut introduite en Europe par la route de la soie dès le Xe siècle grâce aux marchands arabo-persans. Elle est signalée par Marco Polo dans le Devisement du Monde. Il est souvent mentionné à tort qu'il fut le premier occidental à l'avoir alors qu'il fut précédé par le franciscain Guillaume de Rubruck et le premier à l'importer en Europe, cet explorateur franciscain de langue flamande, racontant aussi avoir vu un moine l'utiliser avec de l'eau bénite. Et Odoric de Podemnone, elle fut d'abord cantonnée parmi les plantes médicinales, constituant du catholicium simple de la pharmacopée maritime occidentale au XVIIIe siècle, et ornementale. Elle ne fut cultivée et consommée comme plante potagère qu'à partir du XVIIIe siècle. Donc, l'importation en France de la rhubarbe pourrait être le fait de Coste d'Arnoba et du célèbre botaniste Charles-Alexandre Julliard qui en rapporta au roi Louis XIV. En Europe, c'est en Grande-Bretagne qu'on commence à utiliser en cuisine dans le courant du XIXe siècle. Les recettes sont cependant très peu nombreuses jusqu'au milieu du XXe siècle.
Et merci Nathé. Et encore maintenant, la rhubarbe n'est pas forcément cuisinée parce que les gens n'apprécient pas forcément l'acidité de cette rhubarbe. Tout dépend de comment on la cuisine et on la pâtisse, on va dire. Mais bon, j'aime pas trop ce mot. Donc on sait maintenant pourquoi la rhubarbe a un H. Est-ce que tu t'es posé, t'as fait la relation, non?
Non, du tout.
Rhum.
Ah, rhum, mais oui, t'as raison.
R-H-E-U-M.
Oui.
Et en fin de compte, rhubarbe. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ça gardait un H. Et en fin de compte, c'est dû à rhum, en fin de compte, le nom origine.
Oui, c'est ça.
Donc, du coup, on l'a gardé rhubarbe. Alors, je ne sais pas comment c'est venu rhubarbe à rhum, de rhum. À rhubarbe.
Ouais.
Bon, faudra que je fasse des recherches et puis.
C'est Marco Polo.
Oui, c'est encore un coup de Marco Polo. Voilà. Écoutez, je vous propose une pause et puis avant de vous expliquer un petit peu cette recette de muffin à la rhubarbe. À tout de suite.
Salut, c'est Pierre Demar sur Infini Radio.
Savoir la loi des sentiments, le cœur en
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors oui, dans Food Anne, ben, on va faire des muffins à la rhubarbe. Alors, c'est déjà la dernière partie hein, de notre...
Mais oui, c'est le dessert.
C'est le dessert.
C'est le meilleur, c'est le sucré.
Alors, c'est oui.
Toi, non, c'est pas le meilleur, mais moi je suis très sucrée.
Toi, t'es très sucrée.
Puis moi, j'adore la rhubarbe.
Je suis plutôt salée, moi. Donc la rhubarbe, on en avait déjà parlé l'année dernière à la même saison, de mémoire. On avait fait une... De mémoire, vraiment de mémoire, mais tu vas me... T'en as une
plus grande. Ma mémoire me fait défaut aussi.
Je pense que c'était de la tarte à la rhubarbe.
Oui, c'était de la meringue. Oui.
Parce que ça, c'est quelque chose, moi, que je... Voilà, la rhubarbe, il faut qu'elle soit entourée de choses pour que ça passe l'acidité. Parce que la rhubarbe toute seule, ou en confiture, là, en confiture, c'est
en
sympa
En confiture,
aussi.
Mais il faut bien sucrer, parce qu'effectivement, ça pour adoucir. Mais oui, c'est très, très bon. Hein, c'est,
Alors, juste une astuce oui. que ma maman m'a transmise il n'y a pas très, très longtemps. Ils auraient pu me le dire avant. Donc, du coup, je n'ai pas fait, mais... Pour enlever l'acidité, en fin de compte, de la rhubarbe, quand vous l'avez coupée, en fin de compte, en petits morceaux, vous les plongez 2 minutes dans l'eau bouillante. Et ça enlève toute l'acidité,
ah ouais
une partie de l'acidité.
D'accord.
Voilà, donc moi, comme j'avais fait ma recette, j'ai toujours fait mes recettes comme ça, sans plonger. J'ai dit, moi, ça fait des années que je fais de la rhubarbe et tu me le dis seulement maintenant. Bon, vaut mieux tard que jamais, à 82 ans, on oublie des choses hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc l'astuce, encore une... C'est pour enlever l'acidité de la rhubarbe. Une fois qu'elle est coupée en petits morceaux, vous la planchez en fin de compte, ça s'appelle blanchir. Mmh. Et on la plonge dans l'eau bouillante, 2-3 minutes. Vous relevez, vous la laissez refroidir. Et normalement, elle est moins acide.
D'accord. Voilà.
Donc, c'est une belle astuce. Je débloque là. Bien, alors pour la recette, vous aurez besoin pour faire ces muffins 300 g de farine, une pincée de sel, 100 g de sucre, 12 centilitres d'huile. Alors, l'huile de tournesol hein, ou de colza, hein, mais pas d'huile d'olive.
Oui, oui.
Je le dis parce que moi, un jour, je me suis plantée quand j'étais gosse et ça fait une autre drôle de recette. 100 g de cassonade et 3 œufs. 25 centilitres de lait, 2 cuillères à soupe à café d'essence d'amande. Si vous n'avez pas d'essence d'amande, vous faites sans. C'est juste pour relever le goût. Moi, franchement, je fais sans essence d'amande.
Moi, je mets de l'extrait de vanille, sinon.
Oui, oui, oui. Bah, tu mets de l'extrait de vanille, ou tu peux mettre aussi un sachet de sucre vanille. Hein. C'est bien aussi. Ça permet de relever un petit peu et d'adoucir cette rhubarbe. 100 g de rhubarbe, donc vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Ou de fraises, donc si vous avez choisi de faire des fraises, vous ferez les deux, vous ferez des essais, des mixtes, voilà. La fraise et la rhubarbe se marient très très bien,
oui.
Donc vous pouvez faire très bien un muffin rhubarbe fraise, donc dans ces cas-là vous faites moite-moite. Et puis, il vous faudra une douzaine de moules à muffins. Donc, moi, je fais ça aussi dans mes cassolettes en papier. Mais j'ai aussi des moules à muffins, les moules mous. Voilà.
Hein, mes fameux silicone.
Oui, moi, j'appelle ça des moules mous. Oui. J'aime bien dire ça. Alors, vous compterez à peu près 10 minutes de préparation, donc vous voyez, c'est pas très très long. Et puis 20 minutes de cuisson, donc ça va être très vite parce que c'est des petits gâteaux, mais il faut quand même qu'ils soient bien cuits. Alors, pour commencer, déjà, on va allumer le four à 200 degrés, c'est-à-dire que le thermostat il doit être à peu près à 8. Et puis, on va prendre donc un saladier. Et dans ce saladier, on va mettre la farine, le sel. On va incorporer le sucre et la cassonade. Donc, c'est tout en fin de compte.
Tout le sec.
Tout le sec. Et ensuite, dans un autre saladier, vous allez mélanger l'huile, les œufs, le lait, l'essence. Et vous allez fouetter comme on fait une omelette. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de vaisselle, mais c'est bien de séparer les deux. Et puis, une fois que vous avez votre première préparation, à savoir, vous allez rajouter dans votre espèce d'omelette sucrée, on va dire, vous allez rajouter votre première préparation, donc à savoir la farine, le sel, le sucre et la cassonade. Voilà, c'est simple. Alors pourquoi on fait comme ça ?
Il y a moins de grumeaux ?
Il y a moins de grumeaux et puis tout est mélangé.
Oui, c'est ça.
Parce que en général, ça dépend des fois. Il y a des fois, je mélange les œufs avec le sucre pour bien blanchir. Je rajoute le lait. Mais je trouve qu'avec cette recette, ça a changé un petit peu. Et puis, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose d'homogène et que le sucre, s'il est un petit peu plus compact que d'autres fois, surtout avec la cassonade. La cassonade, si vous utilisez la vergeoise, c'est bien qu'elle soit mélangée à la farine. Comme ça, elle est moins humide et on a après si vous aimez bien avoir des petits morceaux de sucre dans la bouche, ça peut être sympa aussi, hein. Mais voilà, c'est plus homogène. Voilà, on va incorporer une fois qu'on a fait ce mélange, on incorpore la rhubarbe qu'on aura coupée en petits dés auparavant, qu'on aura, comme je vous l'ai dit, ébouillanté et fait refroidir, donc 2 minutes dans l'eau bouillante et refroidi sur un linge ou dans une passoire tout simplement. Et puis vous allez mélanger le tout, aussi bien votre première préparation avec la rhubarbe. Et on aura vraiment un beau mélange bien homogène et là vous versez dans les moules. Alors vous le faites à la cuillère, parce que dans les poches, la rhubarbe, elle ne va pas passer, même si votre trou, il est fort. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, mais bon, ça, c'est une autre technique. Moi, franchement, je suis pas accro, mais je l'ai vu dans une autre recette. C'est que vous versez votre première préparation, donc sans y mettre la rhubarbe. Et puis, une fois que vos cassolettes sont bien remplies, vous mettez vos dés de rhubarbe. Vous pouvez faire ça comme ça aussi. Moi, je préfère tout mélanger et je remplis mes moules aux 3/4 parce que ça risque de gonfler un petit peu. Donc, si ça gonfle un petit peu, ça serait dommage que ça déborde.
En parlant de gonfler, j'ai pas vu de levure.
De levure, non.
Non, et non. Ça gonfle quand même ?
Oui, tu peux. Les madeleines, il n'y a pas de levure.
C'est vrai.
Voilà, et pourtant ça gonfle. Voilà, donc une cuisson à 200 degrés, on enfourne pendant 20 minutes. Je vous rappelle la petite astuce pour savoir si c'est cuit. Une petite lame de couteau dans le milieu d'un muffin. Et puis, si ça ressort sec, c'est impeccable. C'est cuit. Si c'est encore un petit peu humide et que vous avez du liquide qui sort, vous remettez un peu, 2-3 minutes. Voilà. C'est une recette qu'on peut faire au goûter aussi. Les goûter avec un thé ou un chocolat chaud, ça peut être très très sympa.
Faut faire goûter aux enfants, ils aimeront certainement. Ça va peut-être les surprendre au départ, mais...
C'est une plante qu'on ne connaît pas. Et en ce moment, sur le marché, vous avez 3 bâtons qui se battent en duel. Donc c'est
dommage. Alors par contre, il faut bien dire, il faut bien les éplucher.
Alors ça dépend. Ça dépend.
C'est filandreux.
Alors c'est filandreux, mais si tu l'épluches, si ici elle n'est pas filante, tu couperas. Moi, non. Si tu les coupes en petits dés, ça va cuire. Ça va cuire, il n'y aura pas
Moi je les épluche toujours. Plus, le tour là, c'est dur.
J'épluche que quand ça ça va en fil, j'enlève, mais en aucun cas le rouge là, justement quand elle est trop verte, c'est moi je trouve pas ça beau.
Non, mais ça vient tout seul en fait, la peau.
Oui.
La première peau vient toute seule et c'est là que tu vois que c'est très filandreux.
Moi j'enlève pas la peau.
Ah ouais, moi toujours. Après, j'ai une autre solution quand j'en trouve pas, c'est je vais surgelée elle est très bonne.
Oui, mais moi j'en ai
dans mon
jardin.
Et elle est déjà en tronçon.
Oui, j'en
toi t'en as dans ton jardin.
J'ai pas de souci à ce niveau-là. Une petite pause ou non ? On va continuer. On va continuer parce qu'on est bientôt à la fin.
Ouais.
Et je voudrais que tu nous parles un petit peu, que tu nous racontes de l'histoire.
Oui, on fait une pause, Théo.
On fait une pause, Théo ? On n'aura pas fini sinon, hein ? Donc non, on va pas faire parce que moi j'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'histoire de la pâtisserie parce que ça vaut le coup quand même.
Ouais, Alors, la pâtisserie, c'est un corps de métier important dans la société française, très réputée pour son expertise en la matière. La France possède les meilleurs pâtissiers du monde, mais pour atteindre ce niveau d'excellence, il a fallu de longues évolutions. Enfin, une longue évolution plutôt. Alors, revenons sur ce parcours passionnant en nous attardant sur les origines de la pâtisserie et ses personnages emblématiques. La pâtisserie remonte à plus de 7000 ans et c'est chez les Grecs que l'on retrouve le premier gâteau préparé. Ce gâteau s'appelant obélias, ce qui signifie offrande, une pâtisserie qui sert à faire des offrandes aux dieux grecs. Il est composé de farine et de miel, un gâteau très simple qui ressemble plus à une galette. Et les Grecs chauffent cette pâte sur une pierre chaude pour la cuire. Ce n'est qu'à l'apparition des œufs, du sucre et du beurre que l'on peut commencer à parler réellement de gâteau. Au 7e siècle, l'élevage des poules devient courant. Il marque un tournant dans l'évolution de la pâtisserie. Et puis, au Moyen-Âge, des personnes découvrent la canne à sucre, ainsi que l'ancêtre de la pâte feuilletée nommée bourek. Et quant au terme « dessert », qui au sens littéral signifie « desservir la table », il prend tout son sens qu'à partir du 17e siècle, il désigne alors des petites douceurs que l'on sert après avoir desservi la table. Plusieurs personnes ont participé à l'évolution de la pâtisserie. Au XIIIe siècle, on retrouve Regnault Barbon qui enregistre le statut d'oublayeur, ancêtre des pâtissiers d'aujourd'hui. Les oublayeurs fabriquent des oublis qui sont des pâtisseries roulées en forme de cornet. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le métier de pâtissier se concrétise avec l'importation des génoises, des macarons ou encore des massepains originaires d'Italie. En 1566 apparaissent la corporation des pâtissiers et la naissance des glaces grâce aux Italiens. Merci les Italiens. En 1645, la levure biologique voit le jour, un événement important dans le monde de la pâtisserie. Mentionnons également deux figures célèbres du domaine. Provencher, un pâtissier qui invente la crème d'amande nommée crème à pitivier, et Vatel qui crée la chantilly. La naissance du croissant intervient à Vienne, d'où l'origine du mot viennoiserie. Et les croissants sont préparés avec une forme de lune car ils représentent la victoire des Viennois sur les Turcs. Le croissant devient leur emblème durant cette guerre. Antonin Carême est l'homme qui instaure le port de la toque dans les cuisines et l'inventeur du feuilletage à 5 tours. Et pour finir, au XXe siècle, la maîtrise du froid marque une nouvelle évolution dans la pâtisserie. Aujourd'hui, ce sont surtout des techniques qui évoluent, mais nous restons tout de même dans les traditions. Nous retrouvons la pâtisserie dans l'artisanat, l'hôtellerie, la grande distribution ainsi que l'agroalimentaire. Elle allie parfaitement la créativité et le respect des valeurs authentiques.
C'était important, enfin, ça remonte pas mal de temps hein, quand même. Hein.
Et oui.
Mais les Grecs, ils font toujours leurs petites galettes avec le miel. Hein.
J'aimerais bien savoir en faire pour voir ce que ça donne, juste de la farine et du miel, en fait, cuit sur une plaque, en fait, c'est ça.
T'essayes et tu verras bien.
Eh ben ouais.
Tu verras
ça
bien.
Être très sucré, mais c'est pas grave, je vais essayer.
Tu nous diras la semaine prochaine ce que ça donne. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est, déjà arrivé à la fin de l'émission. Comme le temps passe vite en votre compagnie avec Théo et Nathalie, toujours fidèles. Voilà, bah écoutez, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast. Tu vois, je m'améliore. Et sur les sites, bien évidemment, ou encore Facebook. Insta aussi, quelque chose comme ça.
Instagram, pas encore, mais je pense que ça va venir.
Moi j'étais persuadée. Alors, l'idée de ces recettes de ce soir et de tous les mardis soirs qu'on fait, c'est de les partager, de les faire avec les enfants. Au tout début de nos émissions, on avait fait ce genre de choses-là. C'était vraiment pour faire avec les enfants. puisque l'émission a été faite le mardi soir exprès pour
Exactement.
Que les enfants puissent cuisiner. Alors, la prochaine fois, on va arriver bientôt à la fête des mères. Mmh. Donc, j'espère que les enfants seront à l'écoute parce qu'on va faire une spéciale fête des mères.
Ouais.
Comme ça, les enfants vont pouvoir faire à manger pour leur maman et puis pour leur papa parce que peu de temps après, ça sera leur papa.
Exactement.
Mais ça, ça sera notre moment. On fera un spécial fête des mères dans peu de temps, dans 15 jours, je crois. C'est prévu, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je pense que là, on est vraiment au bout de notre émission.
Ouais.
On va devoir se quitter.
Et oui.
Mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous souhaite un très très bon appétit, une excellente soirée, et puis bah, surtout, vous prenez bien soin de vous. Bonne soirée.
Bonne soirée.